terrifiante découverte. Crète, Mont Ida, juin 1913. La vieille barbe faisait encore des siennes. Cette satanée bique a trouvé le moyen de s'échapper vers les gorges d'Omalos. C'est à moi d'aller la chercher. C'est Dimitri qui a encore oublié d'attacher la vieille barbe. Mais ce n'est pas lui que Papou envoie à la chasse à la vieille bique.
Stavros, je me fiche que le soleil ne soit pas levé. Toi, tu l'es. Et il fait assez clair pour aller la chercher. File ! Et si tu ne la retrouves pas, tu seras privé de Tsureki à Pâques.
Alors je suis parti. Je me suis équipé d'un gilet de laine, de mon bâton de marche, de quelques coulourias dans un mouchoir, et de quelques coudées de corde pour faire un licol à la vieille barbe quand je l'aurai rattrapée. Je prends également une petite lanterne sourde faite de papier huilé, et me voilà parti. La nuit est encore obscure, une lueur timide promet le jour encore caché par les crêtes. Je renonce à allumer ma lanterne, car j'y vois assez pour ne pas trébucher. Autant ne pas gâcher l'huile. Je prends le sentier qui mène aux gorges, guidé par l'imposante silhouette de la montagne blanche, qui se découpe en teintes blafardes sur le fond de nuit. Mes premiers pas se font en frissonnant et en songeant à mon lit tout chaud. Les suivants en claquant des dents et en maudissant la négligence de Dimitri. Après 2 heures de marche, j'arrive au point du jour devant les premiers éboulis à l'entrée des gorges d'Omalos. J'y vois maintenant assez clair pour m'y aventurer sans risquer de me tordre une cheville ou de me fendre le crâne. Je songe avec amertume que je vais sans doute passer ma journée à jouer les cabris à la recherche de ce maudit animal. Elle mérite bien ses cornes, cette diablesse. Je remonte la sente qui serpente entre les rochers qui font au moins 2 fois ma taille lorsque j'entends au loin un bêlement suivi du tintement caractéristique d'une clochette. Sans se consulter, les bergers martèlent la cloche de l'animal qui dirige leur troupeau pour qu'elle résonne de manière subtilement différente des autres. Avec l'écho des montagnes alentour, chaque tintement devient la signature d'un troupeau. Et là, je ne peux pas me tromper. C'est bien la cloche de la vieille barbe que je viens d'entendre. Un sourire aux lèvres à l'idée de rentrer tôt à la maison, j'écoute attentivement pour déterminer d'où vient le bruit. Un autre tintement retentit lorsque la vieille bique se déplace un peu. Impossible de la voir, mais elle ne me semble pas si loin. Mais elle a sacrément grimpé, la peste. Je soupire et bloque mon bâton dans mon dos à l'aide de la corde. Puis je quitte le sentier en direction des échos de la clochette. Durant ma précautionneuse grimpée, je me laisse guider par les sons qui se font plus clairs, plus nets. Je me rapproche. Parfois, je l'entends bêler. Je vais bientôt te mettre la corde au cou, sale bête. J'arrive sur un petit plateau. Pas d'animal en vue, mais je repère les signes de sa présence. Touffes d'herbes grasses broutées et petits tas de crottins encore frais. Malgré le soleil, qui est maintenant bien levé, je frissonne. Devant moi s'ouvre la bouche noire d'une grotte que je reconnais que trop bien. La Mavrispila, que l'on dit hantée, maudite. Je tourne sur moi-même pour scruter les environs, faisant claquer ma langue et lançant de courtes trilles sifflées pour attirer la vieille barbe. Ça marche, à mon grand déplaisir. Un bêlement me répond de l'intérieur de la grotte. Je m'approche de l'entrée et scrute les ténèbres. La vieille barbe est invisible. Je l'appelle, de plus en plus fort, et je me fatigue la langue à claquer et siffler pour tenter de la faire venir à moi. Je finis même par sortir quelques coulourias que j'émiette pour l'attirer. En vain. Seuls me répondent quelques bêlements et tintements déformés par la réverbération des parois. Avec un soupir, je me résigne à l'inévitable. Il faut que j'entre dans cette maudite grotte chercher par la peau du cou cette sale bestiole. J'allume donc ma lanterne, je saisis mon bâton et j'entre précautionneusement dans l'ombre fraîche de la grotte. Le souterrain est un véritable labyrinthe. Je n'ai plus l'âge d'être effrayé par les horribles récits bibliques sur l'enfer que le pop peut raconter pour nous pousser à bien agir. La Mavrispila n'a de maudit que son labyrinthe, et elle est surtout dangereuse pour les animaux qui s'y perdent. Néanmoins, je ne suis pas rassuré de la parcourir seule. J'essaye de me guider au tintement sporadique de la cloche de la vieille barbe, mais les échos sont déroutants. Je commence par l'entendre devant moi, et l'instant d'après, elle me semble être à ma gauche. Je tourne dans cette direction, et soudain, c'est à ma droite que rebondit un bêlement. Je dois me rendre à l'évidence. Cette satanée bique joue avec moi, et j'ai étoffé d'être perdu. Mais je refuse d'abandonner, pour pouvoir regarder le papou en face et mettre le nez de Dimitri dans ses ennuis. Je veux rentrer à la maison avec la bique en laisse, et le plus tôt sera le mieux. Alors que je tente toujours de suivre les bruits que fait l'animal, je finis par entendre un autre son, très étrange celui-ci. Une sorte de ronronnement. À un instant, je me tétanise, pensant avoir affaire à un loup ou à un furrogatos. Le second est certes un gros chat, mais apeuré, ses griffes peuvent infliger de sales blessures. Mais je me rends vite compte qu'il ne s'agit pas d'un bruit animal. C'est trop régulier pour être naturel. Intrigué, je continue d'avancer. La vieille barbe semble désormais vouloir m'aider, car ses bêlements se sont faits plus réguliers, plus présents. Je suis intrigué car les sons de l'animal et ceux étranges et réguliers semblent provenir du même endroit. À mesure que je progresse, de couloir en boyau, je sens que je me rapproche de mon but. D'ailleurs, je ne m'en rends pas compte tout de suite à cause de la lueur de ma lanterne, mais l'endroit vers lequel je me dirige semble éclairé. Au détour d'un coude, fait par la roche, j'entre dans une petite salle ronde. Le lieu est teinté d'une lueur dorée et vacillante, éclairée par une dizaine de bougies posées ça et là. Sur la paroi opposée, des gravures étranges, géométriques, dessinent un enchevêtrement de lignes et de formes dont l'observation prolongée me met mal à l'aise. Au pied de cette paroi, comme encastré dans la roche, se trouve un objet métallique, doré comme le cuivre. Cylindrique, d'environ 2 coudées de long, il est orné de tubes, de tiges et de lames. Des ouvertures pratiquées à certains endroits suggèrent des entrailles mécaniques que la faible luminosité m'empêche de bien voir. Ce que je ne peux manquer d'observer, par contre, c'est la présence de taches brunes autour de certaines de ces ouïes. Elles recouvrent également quelques-uns des instruments encore dressés. Du sang. À peine suis-je entré que je comprends l'origine du son étrange. C'est cette machine qui grogne doucement, me rappelant le bruit de moteur de la voiture du médecin du village. Mais ce n'est pas le seul son, ici. Le halètement et les faibles gémissements tirent mon regard de cet étrange objet vers un tas sombre que la chiche luminosité m'avait presque caché. Au centre, à quelques empans de la machinerie, je découvre la vieille barbe, ou plutôt ce qu'il en reste. L'animal n'a plus de fourrure. Je ne vois plus que la chair à vif, muscles sanguinolents et palpitants, luisant d'ichor teinté de rose. La bête est allongée mais vit encore, les joues se gonflant au rythme de sa respiration difficile, la langue pendante, le regard vide de ses orbites énucléées. Il ne m'en faut pas plus. Ma raison ne pouvant comprendre ce qui a pu se passer, un flot d'adrénaline sature mon esprit et je fais demi-tour en hurlant, les mains lancées devant moi, me cognant sur les parois de roche. J'ai laissé tomber mon bâton et ma lanterne, et c'est à tâtons aveugles que je cherche la sortie de cette folie. J'ignore combien de temps j'erre dans le noir, mais la chance a voulu que, désorienté, je finisse par retrouver la lumière du jour plutôt que celle des cierges maudits. Vidé de tout, je me retrouve à genoux, marmonnant des bribes de prière à la Panagia. Deux ombres me recouvrent soudain. Relevant la tête, je découvre 2 messieurs, richement vêtus comme ces personnages des couvertures de journaux que vend Stavros au village et que personne n'achète, sauf le docteur et le Didascalos. Ils abordent 2 grands chapeaux cylindriques noirs. L'un d'eux porte même une montre goussée. Il ne pourrait pas faire plus déplacé qu'ici, au flanc de la montagne blanche. Ils semblent aussi surpris de me découvrir que moi. Mais l'un des deux me tend une main en souriant. J'accepte son aide et me redresse face à eux. « Tout va bien, mon garçon, c'est terminé. me dit soudain l'un d'eux dans un grec atroce aux accents anglo-saxons. Nous allons nous occuper de tout. Je le regarde, éberlué. De quoi parle-t-il ? S'occuper de quoi ? Ma chèvre, je finis par dire. Ma chèvre est là-dedans. Elle a été blessée par quelque chose. Tu as de la chance de t'en être sorti, petit. Maintenant, tu vas rentrer chez toi, mais tu dois nous faire une promesse.
Quoi ?
Il ne faut pas que tu racontes ce qui s'est passé ici. Mieux, il faut que tu expliques aux gens du village qu'il ne faut surtout plus venir ici.
Vous dites n'importe quoi. Je peux pas revenir sans la chèvre. Mon papou va me tuer. Et puis c'est quoi cette histoire ? C'est quoi cette grotte ? Qu'est-ce que vous faites ici ?
Tandis que je reprends mon souffle, les deux étrangers échangent un regard. Puis l'un d'eux pose une main amicale sur mon épaule et en me souriant me dit
« Je comprends pour ta chèvre. Viens avec moi, petit. Nous allons trouver un arrangement. D'accord ?»
Calculant déjà dans ma tête le poids de la vieille barbe en drachme, j'accepte la proposition de l'étranger. Celui-ci, sans lâcher mon épaule, me guide vers le chemin du retour. Après quelques pas, il se retourne vers son compagnon et lui lance une phrase dans une langue étrangère. Je n'ai pas compris ce qu'il lui a dit, mais à mes oreilles, ça ressemblait à ça.
« Dis que le berger n'est jamais ressorti. »
Terrifiante découverte. Un conte dans l'univers des vieilles têtes à long chapeau. Écrit, narré et mis en son par Vincent Corlet sur une musique de Kevin MacLeod. Une production signée Georges Fauveau et Vincent Corlet pour la Société des vieilles têtes à long chapeau.